Alors, sujet principal qui porte sur la politique logicielle libre de Fleury-les-Aubrais avec William Gonzalez, délégué à la protection des données pour la ville. Donc, bonjour William.
Bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue.
Bonjour Étienne.
Alors, Liam, tu n'es pas que, et je mets bien sûr des guillemets autour de ce que, tu n'es pas que délégué à la protection des données pour Fleury-les-Aubrais. Alors, délégué à la protection des données, DPO pour faire court. Tu es aussi un libriste convaincu, tu es membre de l'April à titre individuel, tu as écrit un livre sur le logiciel libre dont on parlera tout à l'heure. Et puis, avant d'être DPO, donc, tu as été plusieurs années en charge du service informatique de la ville. Et à ce titre, tu as été un acteur important de l'engagement de Fleury-les-Aubrais pour le logiciel libre, et notamment marqué par l'adhésion de la ville à l'April. Donc, Liam, avant qu'on rentre dans le détail de cet engagement de Fleury-les-Aubrais, est-ce que tu veux bien nous parler un peu peut-être de ton parcours et notamment de comment tu es venu au logiciel libre?
Oui, bien sûr. Tout d'abord, je tenais à remercier l'April hein, pour cette invitation. Hein. C'est pour moi une grande première d'ailleurs d'intervenir à la radio dans l'émission Libre à vous. Donc merci encore pour cette invitation. Voilà, je suis arrivé à Fleury en fait en septembre 2002. J'ai d'abord commencé en tant que technicien et puis j'ai pris assez vite le poste de responsable informatique après le départ de l'ancien responsable. Donc nous étions une petite équipe de trois personnes hein, pour gérer l'ensemble du parc informatique de la ville de Fleury-les-Aubrais. Ça représentait environ à l'époque une centaine de postes de travail. Aujourd'hui, on est à plus de 350 machines et une quarantaine de serveurs. J'avais avec moi donc un technicien support hein, pour toute l'assistance aux utilisateurs, un chef de projet applicatif et puis un administrateur système et réseau. Et c'est vrai qu'avant Fleury, j'avais travaillé dans le secteur privé pendant un an et demi et je connaissais pas du tout le logiciel libre. Hein. J'avais bien sûr connaissance des systèmes d'exploitation Linux, mais sans vraiment les avoir utilisés. Et dès mon arrivée à Fleury, j'ai travaillé avec un prestataire informatique, un consultant, une société qui avait de très bonnes connaissances dans l'open source. Le logiciel libre, et ça m'a permis vraiment de comprendre qu'il existait une autre informatique, des alternatives à Microsoft notamment. Et du coup, voilà, je me suis intéressé au sujet et j'ai commencé voilà à travailler ce sujet avec mon équipe.
Ok, super. Hein. Comment ça a été accueilli? Toi, tu es arrivé, donc tu as voulu initier à un moment donné une pratique plutôt alternative vers du logiciel libre. Comment ça s'est mis en place justement et comment ça a été accueilli au sein de Fleury-les-Aubrais?
Alors j'ai commencé par un projet de migration vers la bureautique libre. À l'époque, en 2002, on utilisait comme principalement l'ensemble des collectivités de la métropole d'Orléans, la bureautique Microsoft, hein, donc Excel, Word, PowerPoint. Et en fait, du coup, je me suis aperçu qu'il existait une alternative à l'époque OpenOffice. Hein, c'était en 2004, 2005. Donc on était quelque part assez précurseurs sur le sujet, hein, puisque aucune ville de la métropole d'Orléans avait commencé à s'intéresser à cette migration. Et donc voilà, ça a été vraiment le projet important pour Fleury-les-Aubrais. Alors comment convaincre pour aller dans ce sens-là? Donc j'en ai d'abord parlé à mon élu, hein, qui était l'adjoint à la communication et au système d'information. Il a très vite compris en fait les bienfaits du logiciel libre pour une collectivité. Dans un premier temps, c'est ce qui l'a séduit, c'était de pouvoir réduire un peu la dépense publique, hein, les budgets, puisqu'on sait très bien qu'en collectivité, les budgets sont contraints, on a de moins en moins de subventions de l'État. Et du coup, voilà, c'était en tout cas une possibilité pour faire baisser les dépenses, et notamment les dépenses en licence. Puisque on avait beaucoup de licences Microsoft.
Oui, c'est intéressant ce qu'on voit. Moi, il y a deux choses qui, enfin, pas qui me frappent. Le terme est exagéré, mais d'une part, que le travail est démarré par la bureautique, parce qu'on a déjà vu avec d'autres collectivités avec qui on a pu faire des émissions. Je pense par exemple à la ville de Fontaine, où ça commence très souvent en fait par la bureautique, qui est finalement un des premiers besoins et peut-être, j'imagine, et tu pourras me corriger, une des premiers pas les plus simples à prendre et en termes de démonstration, notamment parce qu'il y a un logiciel performant qui existe. Et puis cet argument du budget qui est assez souvent finalement peut-être également une première approche, une première manière de convaincre. Et est-ce que ça allait plus loin par la suite? C'est resté très budget? Est-ce que l'intérêt politique, et pas seulement financier, a perclu aussi auprès des élus? Comment c'est, quel est le rapport finalement après plusieurs années
Alors oui, après on a dépassé aussi le côté budgétaire. C'était aussi une façon de dépenser autrement l'argent public, puisque en fait, par exemple pour la migration vers la bureautique libre, ce que j'ai émis, c'était de dire bah voilà, l'économie faite en licence, on va pouvoir le redistribuer aux utilisateurs sous forme de formation, puisqu'on s'est aperçu qu'en fait beaucoup d'agents n'avaient jamais eu de formation sur la bureautique, et c'était l'occasion aussi de leur fournir une formation, et puis de montrer aussi aux élus une certaine indépendance vis-à-vis des éditeurs du marché. Il faut savoir qu'en collectivité, on utilise beaucoup d'applications métiers, on a beaucoup de contraintes de maintenance, on subit ces contrats de maintenance parfois assez onéreux. Et donc l'idée, c'était aussi d'être un peu plus indépendant vis-à-vis des éditeurs du marché.
Oui, c'est effectivement des points cruciaux, et c'est vrai qu'on les met beaucoup en avant, nous, quand à l'April, nous défendons une priorité au logiciel libre. Alors, on entend souvent, ça me fait penser qu'on entend souvent cet argument, peut-être moins maintenant, mais celui des coûts cachés, et je pense que tu résumes très bien en fait, il ne s'agit pas de coûts cachés, mais seulement de repenser la dépense, et en fait, d'être plus dans une démarche d'investissement, de réappropriation des systèmes d'information, et notamment aussi entre les mains des agents publics qui vont la pratiquer au quotidien. Et par ailleurs, on voit aussi cette notion d'indépendance. Alors, comment elle s'exprime, tu, finalement, aussi, cette notion d'indépendance dans le quotidien? Tu l'as déjà un peu expliqué, mais si tu peux creuser un peu.
Oui, bien sûr. Ensuite, après la bureautique libre, on a continué en fait à développer le logiciel libre au sein de la collectivité. Nous, services informatiques, on devait montrer l'exemple. Donc, on a mis en place GLPI, hein, qui est la gestion libre de parc informatique. Hein. C'est le logiciel qui nous permet de gérer l'ensemble du parc informatique, de recenser les postes de travail, les imprimantes, les copieurs, d'avoir aussi un outil de ticketing, de support vis-à-vis des utilisateurs. Et donc, au lieu d'avoir un contrat de maintenance avec un logiciel, on était capable en interne de pouvoir assurer la maintenance de l'outil sans recourir à un contrat de maintenance avec un éditeur, de pouvoir assurer soi-même les montées de version du logiciel. Et c'est aussi ça, l'indépendance, c'est peut-être se réapproprier les compétences en interne. Alors évidemment, il a fallu que les agents du service informatique se forment, hein, puisque mon équipe n'avait pas forcément de compétences dans l'open source, donc il a fallu vraiment monter en compétences. Mais après, voilà, ça nous a permis de reprendre entre guillemets la main sur certains outils. Et puis, si je rebondis sur le choix des élus, les élus ont vraiment bien compris, hein, le fondement en fait de ce projet-là. Ils ont même du coup adhéré, hein, enfin la ville de Fleury-les-Aubrais a adhéré à l'April en tant que ville. Donc ça a été aussi un moteur de ce point de vue, quoi.
Oui, et c'est effectivement un signe très positif. On peut aussi mentionner le fait que Fleury-les-Aubrais est récompensé, le label 3 du territoire numérique libre, ça qui est une initiative de l'association Adulact, qui va spécialiser logiciel libre pour les collectivités. Et donc ça, c'est des signes aussi qui sont encourageants, parce que il est important, lorsque ce genre de démarche est initiée, qu'elle ne repose pas uniquement sur une personne, et en l'occurrence toi, et qu'on puisse imaginer que si tu vas vers d'autres aventures, d'ailleurs c'est un peu ce que tu as fait, on en parlera plus tard, finalement qu'il y a une pérennité aussi dans cette ambition du logiciel libre. Est-ce que toi, elle te semble donc acquise, a priori oui, de ce que tu nous dis, mais elle te semble acquise donc à Fleury-les-Aubrais?
Oui, bien sûr, puisque après la bureautique, on a enclenché vers la messagerie électronique, hein, puisque on a avait le client Outlook et on voulait aussi s'affranchir des licences Microsoft à Outlook, on s'est orienté vers la solution Zimbra. Et puis ensuite, on a développé d'autres outils. On utilise GRR pour la gestion des réservations de ressources. On utilise beaucoup d'applications métiers hein, aussi, WebDelib pour la gestion des délibérations. Donc il y a vraiment voilà comment je pourrais m'exprimer, mais aujourd'hui les élus ils sont partie prenante en fait de cette orientation. Donc je pense qu'une fois qu'on a convaincu les élus, c'est vraiment une bonne chose quoi.
Oui, ça me semble essentiel effectivement, et on voit bien comme il est nécessaire qu'à la fois, on va dire, les pôles techniques, les pôles entre guillemets plus politiques travaillent main dans la main, sinon c'est bien que ça peut vite freiner. Donc c'est encourageant ce que tu nous dis. J'en profite aussi pour préciser que tu cites de nombreux logiciels, et c'est important d'utiliser une variété de logiciels libres pour les différents besoins que peuvent rencontrer une collectivité. On les listera autant que possible sur le site, et n'hésitez pas à venir sur le salon pour nous rappeler, voilà, si vous voyez qu'il manque, on listera tout ça suite à l'émission. Je pense qu'il est intéressant aussi, parce que tu parlais du service interne, et on voit, enfin, le service technique interne. Donc, tu parlais, voilà, de formation, d'acquisition de compétences, etc. Et c'est quand même aussi un point névralgique, c'est la capacité en interne des équipes techniques, donc de porter aussi cette ambition. Quand toi tu as lancé tout ça, comment est-ce que les équipes techniques justement ont reçu cette envie, ont accompagné ces dynamiques? Est-ce qu'il y a eu des résistances? Est-ce qu'au contraire il y a eu un emballement, enfin un plaisir à s'engager là-dedans? Enfin voilà, comment tu l'as ressenti tout ça et comment ça s'est déroulé donc de leur point de vue?
Bah, en tout cas, mon équipe avait pas forcément de compétences hein, sur le point une fois, et du coup tout de suite, voilà, je les ai formés. Ils étaient assez emballés en fait de découvrir d'autres outils. Ça s'est fait assez naturellement. Hein. En informatique, de toute façon, quand on est informaticien, il faut se remettre en question. Aujourd'hui, on peut être très bon, si on se forme pas, on peut être le plus mauvais demain. C'est aussi ancré dans notre culture, et j'ai aussi profité de ça. On était une équipe jeune, dynamique, et mes collègues ont vraiment bien accueilli cette nouvelle orientation d'aller vers le logiciel libre. On a d'ailleurs mis en place des serveurs sous Linux. Donc on n'administre pas un serveur Windows comme on administre un serveur sous Linux. Donc il a fallu quand même du temps hein, pour s'approprier les choses. On s'est fait aussi aider par une société qui était spécialisée dans le domaine de l'open source, qui nous a accompagnés pour justement être autonome.
Alors une question qui nous est revenue, il me semble, plusieurs fois, et que je pense importante, qui nous est revenue plusieurs fois sur quand on parlait de collectivité, parce que j'imagine, tu nous as expliqué que le nombre de postes a augmenté, donc j'imagine que dans tout ce processus, il y a eu des besoins de recrutement. Donc est-ce que le côté libriste était un critère de recrutement ou pas forcément, il était simplement question de former la personne?
Alors c'était un plus, hein, effectivement, quand je suis arrivé à la ville, au départ, j'étais tout seul, j'ai dû recruter mes collègues, et c'est vrai que même si mes collègues n'avaient pas forcément en tout cas de compétences dans l'open source, c'était pas un frein pour moi hein, parce que voilà, on a la chance en collectivité de pouvoir se former assez facilement. On a des organismes, le CNFPT notamment hein, qui permet aux agents territoriaux de se former, donc non, c'était pas un frein cette partie là
Alors on sait aussi un autre aspect, c'est que du coup j'imagine, puisque qui dit travailler sur des logiciels libres, en général ça veut dire aussi peut-être avoir des interactions avec des communautés qui sont derrière ces logiciels libres. Donc plutôt voilà, d'imaginer que Fleury-les-Aubrais, ou du moins que les agents de Fleury-les-Aubrais peut-être vont interagir avec les communautés. Est-ce que déjà ça s'est fait? Est-ce qu'il y a des échanges positifs avec la communauté, ou vous récupérez des logiciels et enfin c'est pas d'ailleurs une critique si c'est le cas, hein, et vous les utilisez en interne. Est-ce qu'il y a une politique voilà de contribution au projet logiciel? Comment tout cela s'est mis en place?
Il n'y a pas eu de politique de contribution hein, au logiciel. On utilisait bah, les logiciels qu'on avait sur le marché. On utilisait beaucoup le projet OpenMeri. C'est un très bon exemple hein, parce qu'il dispose d'un catalogue de logiciels libres vraiment dédié et spécifiquement aux communes. Je citerai par exemple OpenADS, c'est un logiciel libre de gestion des autorisations du droit des sols, Open Cimetière, etc. Donc on s'est plutôt appuyé sur ce qui se faisait. On n'avait pas forcément le temps de pouvoir contribuer directement dans les communautés. Moi, par contre, j'ai réalisé un rapport hein, sur la migration vers la bureautique libre que j'ai mis à disposition sur le site officiel francophone OpenOffice à l'époque. Donc au moins pour partager mon expérience, comment je m'y étais pris, ma méthodologie. Et voilà, c'était aussi une façon de contribuer à cette dynamique.
Très bien. Oui, c'est important, on le sait bien. Alors du coup, peut-être pour aussi, parce que tu avais évoqué quelque chose, je pense qu'il serait intéressant d'entrer un petit peu plus dans le détail. Alors parfois tu nous parles voilà de compétences qui ont été comment dire formées en interne pour pouvoir voilà j'imagine faire les développements nécessaires directement en interne, faire l'administration système en interne, etc. Et peut-être par ailleurs tu nous as aussi évoqué voilà du recours à des prestataires. Donc tout c'est 100% internalisé, les besoins techniques, est-ce qu'il y a un équilibrage, comment tout cela s'est mis en place?
Non, c'est pas 100% internalisé parce que du fait que on est une petite équipe, 3 personnes, hein, on gère à la fois l'informatique, la téléphonie, l'assistance aux utilisateurs, la gestion des serveurs, des réseaux. Donc en fait, en fonction du projet, je prends l'exemple de la messagerie Zimbra. Zimbra, il faut quand même des compétences hein, pour mettre en œuvre ce type de système. Et là, on a fait appel à un prestataire hein, qui avait vraiment les compétences. Pour mettre en place cette messagerie électronique. Et on a même contracté un contrat de maintenance avec ce prestataire pour voilà, nous aider à mettre en œuvre le projet et puis aussi à suivre et à maintenir ces outils. Donc en fait, ça, voilà, ça dépendait du type de projet, du type d'outil. Pour GLPI, le logiciel de gestion de parc informatique, on a pu le faire nous-mêmes en interne. Mais voilà, sur la mise en place d'infrastructures importantes, on s'est fait aider par des sociétés qui ont spécialisé dans le domaine, puisque bon, en interne, on n'avait pas les compétences et puis pas forcément le temps non plus, la disponibilité pour pouvoir le gérer.
D'accord, en somme, si je comprends bien, c'est plus en termes d'opportunités, en fonction de ce que vous semblez, enfin, par rapport à vos propres compétences, aux compétences de l'équipe, et d'arbitrer, voilà, en fonction des besoins.
Voilà, puis aussi par rapport à la criticité bah, d'une application, hein. C'est vrai que la messagerie, c'est très critique, hein. Il faut que ça fonctionne 24 heures sur 24. Donc voilà, ça demande aussi de l'expertise, un peu plus d'expertise qu'on n'avait pas en interne du fait de notre petite équipe.
Alors tu parles de la messagerie, ça permet peut-être aussi de faire une transition parce qu'on imagine, alors là on parlait des équipes techniques, bien sûr il faut aussi, j'imagine que les autres agents publics qui ne sont pas forcément techniques, qui vont avoir différents métiers au sein de la collectivité, soient inclus dans le processus, qui ont besoin d'être formés, ils vont peut-être avoir besoin de remonter des besoins. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu, alors déjà comment ils ont peut-être été inclus dans le processus au début par cette bureautique et comment ça a pu évoluer par la suite
Oui, bah c'est vrai, c'est un point très important d'organiser vraiment une bonne communication autour du projet de migration. On l'a fait à Fleury-les-Aubrais. Hein. On a organisé plusieurs réunions hein, d'information avec l'ensemble des utilisateurs pour leur expliquer pourquoi on voulait s'orienter vers tel logiciel bureautique, leur dire qu'on allait les accompagner aussi, puisque pour les rassurer, hein, puisque c'est la bureautique, ça touche quand même au quotidien des utilisateurs. C'est difficile, il y a beaucoup de conduites de changement. Donc il a fallu les rassurer, leur donner aussi envie hein, d'utiliser la suite bureautique. À l'époque, j'avais distribué des CD avec OpenOffice pour que les agents puissent les installer chez eux. Et ça a plutôt bien marché. Et on a vraiment été à l'écoute de leur demande et surtout. Le service informatique a été très réactif hein. À chaque fois qu'il y avait des questions posées sur cette suite bureautique, on a essayé d'y répondre le plus rapidement possible pour vraiment que ça soit le plus transparent vis-à-vis de l'utilisateur. Donc beaucoup d'accompagnement, vraiment donner envie aux utilisateurs d'utiliser cet outil et puis qu'ils puissent en tirer un bénéfice. Et ce bénéfice a été aussi de leur fournir une formation adaptée à leurs besoins et à leur niveau d'utilisation.
Entendu. Donc là, c'était le stade bureautique. J'imagine qu'ensuite, il a fallu aussi faire les migrations sur des logiciels métiers. Est-ce que ça a été fait plus simple du coup? Le premier pas le plus difficile, c'était la bureautique? Ou au contraire, peut-être que c'était plus difficile sur les logiciels métiers? Comment tu as vécu tout cela?
Le plus difficile, j'ai trouvé que c'était la bureautique, parce que finalement, ça concernait l'ensemble des agents. Il y avait forcément des a priori. En plus, on passait sur un outil libre, gratuit. La gratuité, c'est pas forcément à mettre en avant, puisque souvent, on se dit si c'est gratuit, c'est pas forcément un outil de bonne qualité. Donc, la difficulté, c'était plutôt sur la bureautique, puisqu'en plus c'était le premier projet à Fleury-les-Aubrais.
Est-ce que tu peux nous rappeler sur quelle date ça c'était? Je pense que c'est important aussi de se remettre dans le contexte des époques. Donc ça, c'est migration bureautique, vous avez entamé ça quand déjà?
Alors, on a entamé ça en 2005. Alors, on l'a fait sur plusieurs années, hein. On a migré, en fait, service par service. On l'a fait sur 3 ans. Mais on a commencé la migration dès 2005. C'était à l'époque de OpenOffice, la version 2, qui venait de sortir. Donc 2005 pour la bureautique OpenOffice.
D'accord. Donc ensuite, bon, je t'ai interrompu. Donc ensuite, voilà, sur les logiciels métiers, du coup, mais dans un second temps, tu nous expliquais.
Voilà, les logiciels métiers. Après, c'était plus facile parce que finalement, ça touchait moins d'utilisateurs. L'essentiel, en fait, c'était de répondre aux besoins du service. Moi, je mets toujours en avant faut que le logiciel réponde aux besoins. Après, si c'est un logiciel libre, tant mieux. Et c'est ce qui avait été décidé dans la collectivité, hein, et les élus avaient bien compris que, en fait, à chaque fois qu'on avait un nouveau besoin en logiciel, on regardait ce qui se faisait du côté du logiciel libre. Mais la priorité, il fallait que ça réponde aux besoins du service.
D'accord, la priorité, c'est besoin du service, mais quand même, le facteur logiciel libre restait un facteur aussi, pas exclusif, mais du moins quand même discriminant dans le choix, le caractère libre du logiciel.
Oui. Oui, bien sûr, parce que avec mon expérience sur les, on a beaucoup de logiciels métiers en collectivité. En fait, on s'aperçoit qu'on n'utilise pas toujours 100% des fonctionnalités du produit, et pourtant on en paye 100% de la licence. En tout cas, on règle la totalité de la facture. Et du coup, en utilisant des logiciels libres, on a des coûts moins élevés. Et ça me semblait aussi intéressant de ce point de vue, quoi.
Mais en fait, ce que tu décris, c'est très intéressant justement. Nous, c'est ce qu'on dit quand on défend, on le répète souvent, quand on défend priorité au logiciel libre, il ne s'agit pas de dire que les collectivités, les administrations, ou en fait même à un niveau personnel, une sorte d'obligation hors sol d'utiliser du logiciel libre. Il faut juste effectivement que ce soit un facteur important et qu'il y a conscience justement de tous les l'intérêt. En termes de et tous les intérêts que tu as pu évoquer en termes d'indépendance, en termes de bonne gestion du denier public, etc. En termes de s'appuyer là-dessus, de prendre conscience que c'est important, mais il faut pas être hors sol, il faut lier aux besoins, et en fait c'est juste un facteur important de décision. C'est surtout ça que ça veut dire priorité, et que si on n'utilise pas le logiciel libre, il faut qu'il y ait des bonnes raisons de pas le faire. Avant de passer à la suite, je pense qu'on va pouvoir faire une pause musicale. Alors, je vous propose donc d'écouter My Little Kingdom par Golden Duck Orchestra. On se retrouve juste après. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune
93.1.
I got my little house, I live in it. I got my little babe, I feed her. I got my little pills, I take him. I got my little kids, I made him. I got my little car, it takes me everywhere I wanna go. I got my credit card, I'm such a wicked millionaire.
Cause commune, cause-commune.fm.
Alors, nous venons d'écouter My Little Kingdom par Golden Duck Orchestra, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission affaires publiques pour l'April, et nous échangeons avec William Gonzalez, délégué à la protection des données de la ville de Fleury-les-Aubrais et ex-responsable de son service informatique. Et nous parlons donc de la politique logicielle libre de la collectivité. Alors n'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Alors, donc avant la pause musicale, nous discutions finalement de toute la politique mise en place en termes de migration, et notamment du coup de la formation et de l'importance de former et de convaincre les agents publics pour que les intégrer dans le processus. Moi, je voulais juste peut-être mentionner rapidement l'expérience personnelle, c'est-à-dire que j'étais venu à Fleury-les-Aubrais j'ai oublié de noter la date, mais il y a 2 ans de mémoire pour le Forum du numérique. Et j'ai été très marqué par l'enthousiasme. Alors j'avais discuté avec l'agent public qui était en charge un peu d'organiser l'événement, qui n'était pas du tout une personne libriste à la base, qui n'était pas une technicienne, qui était une personne du service administratif, et qui était extrêmement emballée et qui disait voilà, William nous a tous convaincus depuis. Voilà, je l'utilise aussi à la maison et j'ai trouvé que c'était un super compliment déjà vis-à-vis de ton travail et puis de manière un bel exemple, une belle illustration de comment finalement peut s'essaimer un peu le libre et l'intérêt d'aller vers le libre. Alors peut-être, là on a parlé pas mal de l'intérieur, avant de se tourner vers aussi vers un peu l'extérieur, les administrés, est-ce que tu aurais, si une collectivité, en gros pour résumer, pour tirer un bilan de cette migration, quel bilan tires-tu de cette migration et quels conseils, quelques points clés tu donnerais à une collectivité qui voudrait se lancer, qui voulait se lancer dans cette démarche ?
Alors les conseils que je pourrais donner à une collectivité, c'est bien sûr de bien former son équipe en interne sur les produits open source, bien maîtriser en interne ces systèmes-là. L'avantage pour une collectivité, en fait, pour moi, c'est je trouve que c'est important d'explorer cette direction. C'est une façon, je l'ai dit tout à l'heure, d'être moins dépendant des éditeurs. C'est une façon d'optimiser la dépense publique, et ça c'est important de dépenser autrement. C'est aussi une façon de mieux protéger les données personnelles, et c'est vrai que maintenant je suis bien concerné par le sujet. Donc c'est vraiment, y a vraiment des bienfaits pour les collectivités. C'est aussi le rôle d'une collectivité de montrer aux citoyens qu'il existe d'autres alternatives. On n'a pas beaucoup de marketing autour du logiciel libre, et je pense que les collectivités ont leur rôle à jouer de ce côté-là pour promouvoir un peu ces outils.
Oui, ce rôle me semble particulièrement important. Déjà parce que par la dépense publique, les logiciels des collectivités, ça va pouvoir enrichir des logiciels, puisqu'ils sont libres, pourront être réutilisés par les citoyens, qu'ils soient à titre individuel, dans le cas d'entreprises, elles vont pouvoir être réutilisées par d'autres collectivités, et donc d'avoir une forme d'investissement commun à la création justement d'un commun logiciel qui pourra bénéficier à toutes et à tous. Donc on voit vraiment l'importance de ça. Et puis par l'exemple, comme tu dis, ça remplace, il n'y a pas meilleur finalement entre guillemets campagne marketing que la démonstration par l'exemple concrètement de l'efficacité. Et là c'était l'exemple que je citais peut-être de cette fonctionnaire de Fleury-les-Aubrais qui du coup était convaincue non seulement dans son travail mais dans sa vie, dans son usage informatique personnel, de l'intérêt d'utiliser du logiciel libre. D'ailleurs on a
bien sûr, juste pour rebondir, j'essaye toujours en fait de faire le lien aussi avec la vie personnelle. Quand on utilise des outils à titre professionnel, on peut aussi les utiliser à titre personnel, et je fais beaucoup ce lien. Et je continue d'ailleurs à le faire en tant que délégué à la protection des données lors des formations de sensibilisation. Nos bonnes pratiques au travail, on peut les transposer assez facilement à titre privé.
Parfaitement. Parfaitement, c'est très bien dit. Il y a un point peut-être, parce qu'il faut aussi, c'est bien de voir tout ce qui est positif, mais peut-être qu'il est intéressant aussi pour progresser et de tirer comme expérience, est-ce que tu as identifié, est-ce que tu as dû surmonter des freins, des obstacles? J'imagine que oui, pendant tout ce processus. Est-ce que tu pourrais peut-être les identifier et nous expliquer comment, le cas échéant, comment tu as pu les dépasser et avancer malgré tout?
Bah, le principal frein, c'est bon la réticence, la réticence de l'utilisateur aussi, hein, puisque moi c'est ce que je dis assez souvent, la clé de la réussite finalement c'est l'utilisateur. Hein, si l'utilisateur n'utilise pas le logiciel, finalement bah, le projet a échoué. Donc c'est toujours toujours convaincre, hein, puisque bah, aller vers le logiciel libre, c'est pas forcément un chemin facile, hein, puisque aujourd'hui bah, on nous vend plutôt du Microsoft, du Google, etc. Et donc, il faut sans cesse en fait expliquer notre démarche, ne pas rester que sur l'aspect budgétaire, gratuité, puisque le logiciel libre, il ne faut pas le résumer à la gratuité, hein, c'est inexact, ce serait vraiment très réducteur. Donc, le principal frein, voilà, c'est ça, c'est de faire connaître en fait le monde du logiciel libre. C'est un problème, je pense, culturel aussi, hein, d'acculturation, et donc, c'est très important de communiquer, vraiment d'être à l'écoute des agents.
Très intéressant ce que et ça, moi, ça me fait penser justement, parce qu'en fait, l'informatique en général, c'est compliqué, c'est pas évident, c'est pas de la magie, ça demande un peu de formation, ça demande de la compréhension, du temps, d'apprentissage, c'est pas inné pour qui que ce soit. Et donc, le logiciel libre, comme toute chose informatique, peut demander du temps. Et on voit par ailleurs, effectivement, et je trouve que, enfin, tu fais un peu ce parallèle, il me semble, on voit bien que l'informatique dominante moderne a plutôt tendance à nous pousser à avoir un rapport plutôt passif à l'informatique, en gros tout ce qui se passe pour recréer peut-être cette illusion de magie et faire que la personne n'ait pas envie de savoir comment ça fonctionne derrière, alors qu'on sait bien que l'informatique est un outil qui par lequel voilà on va avoir des interactions sociales, on va exprimer notre liberté d'expression dépend de plus en plus de ces outils, le respect de nos intimités, etc. Donc c'est un outil qui est extrêmement important. Et savoir comment ça marche est un enjeu politique, donc de formation, etc. Donc c'est très important, effectivement, cette idée d'accompagnement et de repartir des utilisateurs qui est d'avoir un rapport pour qu'ils aient un rapport émancipé à l'informatique. Et, voilà, je ne peux que être d'accord avec ce que tu dis. Et tu parles de sensibilisation, donc je te propose de faire un pont aussi du coup vers bah, voilà, vers les administrés, vers les citoyens, citoyennes, vers les personnes, enfin voilà, les usagers. Lorsqu'on avait échangé en amont de l'émission, tu me faisais part notamment des actions de sensibilisation que menait Fleury-les-Aubrais bah, vers les citoyens, les citoyennes. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots?
Oui, bien sûr. On a organisé en fait des ateliers à la bibliothèque de la ville de Fleury, des ateliers à destination du citoyen. Alors un atelier vraiment spécifiquement au logiciel libre, hein, pour leur expliquer voilà qu'on a des alternatives aux outils propriétaires qu'ils utilisent principalement. J'ai également fait un atelier sur le RGPD, hein, la protection des données personnelles, et je fais beaucoup le lien entre le logiciel libre et la protection des données personnelles. Donc voilà, on a beaucoup travaillé avec la bibliothèque qui est un lieu en plus de culture où les gens voilà se rencontrent, et l'idée voilà c'était d'animer des ateliers pour faire connaître ces outils-là. On a travaillé également avec les écoles. Ça me semblait aussi important d'en parler.
Je suis d'accord, tu devances une de mes questions, donc je t'en
D'accord.
prie.
Oui, un petit focus sur les écoles, hein, puisque moi ça me semblait important de montrer aussi aux enfants le monde du logiciel libre, hein, parce que très souvent bah, les enfants connaissent bah, le système d'exploitation Microsoft, le moteur de recherche Google, et dès tout petit, hein, ils sont déjà conditionnés avec ces outils. Donc l'objectif, c'était de développer un peu leur curiosité, de montrer aussi aux parents une nouvelle façon d'appréhender l'informatique avec une même facilité. Et dans les écoles, on a travaillé avec les enseignants, le corps enseignant, le conseiller TIS, pour proposer des alternatives qui collent vraiment aux besoins de l'apprentissage. Et c'est comme ça qu'on a mis en place une expérimentation avec la mise en place de nano-ordinateurs, le Raspberry, hein, pour pas le citer, avec un système d'exploitation adapté au monde scolaire, avec la solution PrimeTux.
Ok, alors est-ce que si quelqu'un, voilà, si tu te fais expliquer ce qu'est un nano-ordinateur à une personne, et Raspberry Pi en particulier, à quelqu'un qui ne connaîtrait pas l'informatique?
Alors, un nano-ordinateur, c'est un ordinateur de toute petite taille, hein. Alors, pourquoi on a choisi ce nano-ordinateur pour les écoles? Déjà, parce que ça permet de gagner de la place, hein. C'est un nano-ordinateur qu'on peut fixer derrière l'écran. Ça remplace en fait l'unité centrale. L'intérêt, c'est aussi le coût, hein, qui est faible, hein, c'est une cinquantaine d'euros. Et puis le nano-ordinateur a une vertu aussi écologique, hein, puisqu'il consomme très peu de watts, hein, environ 5 watts, très peu par rapport à un ordinateur classique. Donc évidemment, il ne remplace pas un PC, hein, puisque il est en termes de performance beaucoup moins évolué. Mais en tout cas, il permet, voilà, de faire des choses assez simples, et pour les enfants, ça suffit amplement pour que ça réponde aux besoins.
Oui, c'est intéressant. Du coup, je trouve que ça fait un parallèle avec ce que tu as pu évoquer plus tôt sur, en fait, ça sert à rien d'avoir des outils très puissants dont on va servir que d'une part infime. Alors, tu parlais ça par rapport au fait de payer les licences. En fait, on sert que de quelques, on a que quelques usages. Là, finalement, pour l'ordinateur et dans le cadre de l'éducation, il n'y a pas besoin de bêtes de guerre. Et en fait, on peut déjà former et enseigner avec, des tout petits ordinateurs qui consomment très peu.
Exactement. Et puis c'était aussi dire aux parents, hein, de dire que, bah, si leur enfant veut découvrir l'informatique, hein, on n'est pas obligé d'acheter un PC à 500 €, hein, bah voilà, le nano-ordinateur peut suffire pour faire découvrir l'informatique à un enfant sans dépenser beaucoup d'argent. Et voilà, c'était aussi l'idée du projet, de montrer aussi aux parents que, bah voilà, il existait ce petit ordinateur où les enfants, notamment dans les écoles primaires, maternelles, pouvaient utiliser.
Alors, je connais de nom Raspberry Pi, j'ai pas encore vraiment creusé enfin, manipulé l'objet. Alors c'est dans la liste des choses à faire, on en a tous. J'ai la sensation que c'est aussi une manière peut-être pour un enfant d'avoir un rapport non seulement avec les aspects logiciels, mais aussi de faire le lien peut-être avec l'aspect matériel, parce qu'il va pouvoir un peu manipuler l'objet. Et je pense que c'est important de voir que aussi l'informatique, à la fois il y a l'aspect numérique, mais aussi l'aspect matériel, et que les deux sont interdépendants.
Oui, d'ailleurs, ça fait l'objet d'un atelier, hein, à la bibliothèque de Fleury-les-Aubrais. On a présenté le Raspberry, on a démonté pour montrer, voilà, le processeur et vraiment tous les composants du Raspberry. Et ça a vraiment plu. En plus, il y avait des enfants dans la salle, et ça a été très, enfin voilà, très bien accueilli. Et donc oui, c'est intéressant aussi de montrer en fait tout l'aspect matériel, hein. Il y a évidemment pas que le logiciel, hein. Pour que le logiciel fonctionne, il faut bien sûr l'aspect matériel.
Très bien. Alors, on a plusieurs fois évoqué, tu as plusieurs fois évoqué le fait que enfin, les données personnelles, le règlement général des données personnelles, le fait que tu aies délégué protection des données. Alors, je pense que c'est beaucoup de choses intéressantes à voir. Avant qu'on passe sur ce sujet différent, mais bien sûr connexe, est-ce qu'il y a un dernier point que tu voulais évoquer là dans le rapport peut-être aux administrés, dans tout le processus de la politique logicielle libre dans un sens plus strict de Fleury-les-Aubrais?
Comme ça, non, je pense que voilà, c'est important de communiquer auprès des usagers, hein. C'est vrai qu'on l'a fait aussi par l'intermédiaire des écoles, hein, parce que les écoles, c'est souvent en plus les parents pauvres de l'informatique, donc ça me semblait aussi important d'essayer de développer le numérique au sein des écoles. Je pense qu'il faut continuer, les collectivités doivent continuer à faire la promotion du logiciel libre auprès du citoyen, hein. C'est aussi une façon de c'est une c'est des valeurs aussi à transmettre, des belles valeurs, hein, de partage aussi, de solidarité, hein. J'en ai pas parlé, j'en parlerai peut-être tout à l'heure avec le livre, mais voilà, le logiciel libre fait aussi à de belles valeurs, quoi.
Bah, ce qui m'aide bon de faire cette facilité, mais qui je trouve très parlante, hein, on sait que Richard Stallman, qui est un des premiers penseurs, enfin le premier à avoir théorisé le logiciel libre, on va dire et qui aimait bien cette phrase de dire qu'en fait le logiciel libre est l'incarnation de la devise liberté, égalité, fraternité. Et je trouve que ça résume bien en fait ce que tu nous expliquais, et je trouve que c'est une phrase qui est très parlante. Et rappelons aussi justement que les écoles primaires dont tu me parlais sont justement l'échelon administratif, enfin, s'occupe des écoles primaires, ce sont les villes. Donc, on voit bien qu'il y a une responsabilité directe à gérer, voilà, ce niveau d'éducation. Je bafouille un peu.
Oui, bien sûr.
Alors, est-ce que déjà tu peux, alors, pour parler sur ces sujets, est-ce que, je pense qu'il y a un sujet extrêmement important dans ce lien entre logiciel libre, protection de nos intimités, voilà, respect des données personnelles, etc. Et donc tu as un regard particulier, parce que donc tu as été responsable des services informatiques, maintenant tu es délégué à la protection des données. Ouais. Est-ce que tu peux déjà nous dire c'est quoi donc un DPO, qu'est-ce que c'est un DPO, qu'est-ce que ça fait?
Oui. Bien sûr. Alors le délégué à la protection des données, donc il est lié à la nouvelle réglementation européenne, hein, on en entend beaucoup parler, hein, le RGPD, hein, qui est le règlement général sur la protection des données, qui est rentré en application le 25 mai 2018. Et le rôle du DPO, c'est vraiment de faire en sorte que la collectivité soit en conformité avec cette nouvelle législation européenne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être en conformité avec cette législation? Dans un premier temps, le délégué à la protection des données doit constituer le registre des traitements de la commune. Je ne l'ai pas dit, mais toute commune, hein, toute collectivité, quelle que soit la taille de la commune, a l'obligation de nommer un délégué à la protection des données. Donc si j'en reviens aux missions du DPO, donc il doit constituer le registre des traitements de la commune. Alors qu'est-ce que le registre des traitements de la commune? Ce sont l'ensemble des traitements utilisés par la commune et des traitements avec des données à caractère personnel. Donc ça peut être à la fois des tableaux bureautiques avec des données personnelles, ça peut être des logiciels métiers, hein, puisqu'on a beaucoup de données personnelles que l'on collecte à travers des logiciels métiers. Ça peut être aussi des traitements papier, puisque les traitements papier sont aussi intégrés dans le RGPD. Donc le rôle du DPO, c'est de faire ce recensement alors des différents traitements. Alors ce recensement, il va assez loin, hein, puisqu'il va falloir définir quel type de données on collecte, de définir des durées de conservation, hein, puisque le RGPD oblige les organisations, les collectivités, les entreprises à définir des durées de conservation. On ne peut pas garder des données de façon indéfiniment. Il va falloir ensuite décrire les mesures de sécurité par rapport à ces traitements. Donc c'est à travers ce recensement que le délégué à la protection des données, il va pouvoir établir un plan d'action et mesurer les non-conformités et de pouvoir aller justement vers cette conformité et apporter des solutions aux collectivités. Une des missions importantes du délégué à la protection des données, c'est aussi de sensibiliser le personnel, notamment sur la sécurité informatique, hein, sur les usages, les bons usages de nos outils numériques, avoir les bonnes pratiques, savoir reconnaître un mail frauduleux, par exemple, puisqu'on sait très bien que on a beaucoup de cyberattaques, hein, surtout en ce moment avec le contexte actuel, et donc c'est important de sensibiliser le personnel. La sécurité informatique, ce sont pas que les outils, ce sont pas que les pare-feux, les antivirus. L'être humain, c'est aussi une faille. Et donc, du coup, on peut pas être derrière l'épaule de chaque personne. Donc, c'est important de sensibiliser le personnel. Et c'est vraiment une mission importante du délégué à la protection des données. Et puis c'est celui qui sera l'interlocuteur avec la CNIL, hein, la CNIL qui est la Commission nationale informatique et liberté, hein, qui reste l'unité de contrôle en France. Et du coup c'est vraiment le DPO qui fera le lien entre la CNIL et puis la collectivité. Alors la CNIL, on la contacte pas que quand on a des, elle est pas là que pour sanctionner, hein, les organisations. On peut aussi poser des questions à la CNIL. Donc voilà en fait les différentes missions du délégué à la protection des données. Donc je dirais, on va dire, trois grandes compétences pour le DPO. La première, bien connaître les nouvelles technologies, la sécurité informatique, donc avoir des compétences informatiques, évidemment. Des compétences juridiques, hein, bien connaître le RGPD, la loi informatique et liberté, puisque le DPO peut être amené aussi à rédiger des clauses RGPD, notamment dans les contrats de maintenance, mais ça peut être aussi dans les marchés publics, hein, puisqu'il va falloir aussi vérifier la conformité des sous-traitants. Et puis aussi être communicant. Hein, le DPO ne doit pas rester seul dans son bureau. Il doit aller vraiment au contact des personnes, aller sur le terrain et de bien faire passer le message. Et moi, c'est ce que je dis assez souvent. Ne pas dire que le RGPD c'est une contrainte, mais s'en servir pour justement mieux maîtriser nos données personnelles. Il faut se servir de cette contrainte finalement comme une opportunité pour mieux gérer en fait ces process en interne.
Parfait. Parfait, non, c'est très clair et je pense que et ça c'est un argument qu'on utilise d'ailleurs depuis longtemps, que ce soit sur les notions effectivement de l'informatique loyale, de la protection des intimités en ligne, etc. C'est-à-dire qu'effectivement c'est pas des contraintes, c'est des choses sur lesquelles s'appuyer pour bâtir une meilleure informatique, un meilleur rapport à nos outils. Et donc c'est très clair ce que tu nous dis. Un point que je pense qu'il est important peut-être de souligner. On se rend, je pense, pas compte quand on extérieur à tout ça, parce que je pense que les collectivités brassent une quantité de données personnelles qui est énorme. Donc on peut se rendre compte de l'importance, voilà, qu'il y ait une bonne gestion de ces données. Et aussi, on entend régulièrement, on sait que normalement, enfin, le consentement au traitement des données n'est qu'un des aspects qui permet justement d'avoir un traitement conforme. Et les collectivités ont plein de traitements qu'elles font, mais qui vont sans consentement direct, parce que ça va relever, tu pourras me corriger, mais que ça va relever finalement de leur mission de service public, oui, voilà, d'autres critères du RGPD. Et ça, c'est parfois les personnes ont l'impression n'ont pas conscience de ça, voilà.
Oui, le consentement, en fait, n'est pas tout nécessaire hein, quand on met en place un traitement. Hein. Je vais prendre un exemple assez simple. Dans les collectivités, on développe beaucoup la vidéoprotection, hein, les systèmes de vidéoprotection. Hein. Il n'est pas utile de demander à chaque citoyen si on peut le faire. C'est pour protéger, en fait, les citoyens, protéger les bâtiments, etc. Donc, effectivement, en collectivité, on a beaucoup de traitements qui ne nécessitent pas de consentement de la personne.
Oui, alors on pourrait avoir tout un débat sur le fait est-ce qu'une vidéo permet de protéger ou voilà, mais ça c'est vrai que c'est des débats de fond politiques qui sont. Mais effectivement, elle se rentre c'est un exemple où ça rentre dans une case qui n'est pas celle du consentement, mais celle voilà de la mission de service public et ensuite voilà la collectivité va le définir ensuite et c'est donc très différent effectivement.
Le consentement, ça n'empêche pas aussi de bien informer hein, les usagers de la façon dont on traite leurs données. Hein. C'est deux choses différentes. Hein. Il y a le consentement, puis il y a le droit à l'information. Et il faut bien distinguer les deux parce que c'est aussi important de bien montrer aux citoyens que on traite ces données de façon dans les règles du RGPD. Quoi.
Tout à fait. Alors, pendant que tu nous expliquais aussi le rôle du DPO, tu nous parlais de l'importance de cette sensibilisation et de l'accompagnement. Tout le travail que tu as fait lorsque tu étais responsable des services informatiques de migration et de formation, j'imagine que ça a dû te servir peut-être dans ton travail actuel, en termes de rapport avec les agents, de formation et de sensibilisation.
Oui, bien sûr, parce que l'informatique c'est très transversal, hein, on touche forcément tous les métiers, hein, tous les services de la collectivité, puisque tous les services de la collectivité sont informatisés. Mais le RGPD, la protection des données personnelles, c'est un peu la même chose finalement. On touche tous les métiers et voilà, ça me permet de continuer d'être vraiment avec les services, de les accompagner et voilà, je ressens un peu je retrouve en tout cas des similitudes entre le DSI, la direction des systèmes d'information, et puis le délégué à la protection des données.
Alors, je vois le filet, il y avait cette question qui paraît moi que c'était la plus importante à mes yeux quelque part. Pourquoi le logiciel libre est important du point de vue selon toi, en quoi le logiciel libre est vecteur d'une meilleure protection des données, justement? Vaste question.
Ouais, bien sûr. Alors moi, c'est vrai que je fais beaucoup le lien entre le logiciel libre et les données personnelles, et je m'en sers beaucoup au quotidien. Alors, je dirais simplement que le logiciel libre, il respecte nativement l'utilisateur, sa vie privée, d'une part parce que son développement est transparent, hein, le code source est ouvert et accessible. Donc finalement, on sait exactement ce que fait le logiciel. En tout cas, si on a les compétences pour aller voir le code, on sait exactement ce que fait le logiciel. Donc on a vraiment une transparence, et c'est aussi l'idée du RGPD. RGPD, d'être transparent vis-à-vis de l'usager. Et puis le logiciel libre, son modèle économique ne s'appuie pas sur les données personnelles de l'utilisateur, hein, contrairement à certaines entreprises, hein, les GAFAM hein, notamment, hein, qui vendent nos données pour en faire un commerce. C'est pas du tout le cas pour les logiciels libres. Donc voilà pourquoi je fais vraiment le lien entre la protection des données personnelles et le logiciel libre.
Synthèse parfaite. Écoute, je suis complètement d'accord et je pense qu'on parle beaucoup du consentement, mais ce qui est peut-être le plus important, c'est en fait d'avoir des systèmes d'information loyaux auxquels on peut avoir confiance. Et après, le consentement finalement doit paraître presque secondaire par rapport à ça. À partir du moment où on peut avoir confiance dans les systèmes sur lesquels s'appuient en fait nos données, mais je ne fais que te paraphraser peut-être là.
Oui, bien sûr. Et puis pour en revenir à l'usage de ces outils, c'est vrai qu'on a de plus en plus d'outils en ligne, hein, directement accessibles sur le cloud. Donc moi, je recommande toujours aux utilisateurs d'utiliser plutôt des services plus protecteurs de la vie privée. Hein. Je vais citer quelques exemples. On utilise souvent Doodle hein, pour planifier une réunion. Bah, je leur dis plutôt d'utiliser Framadat, hein, les outils de Framasoft. On utilise Google Forms pour réaliser des sondages, alors qu'il y a Framaforms. Donc voilà. Donc moi j'essaye aussi d'orienter en fait les usages, puisque les utilisateurs s'en rendent pas forcément compte. Aujourd'hui il y a des outils assez facilement accessibles sur le net, et pourtant les conséquences en matière de données personnelles, on en a. Et donc je suis vigilant aussi sur ce terrain-là, puisque finalement aujourd'hui c'est vraiment mon cœur du sujet quoi.
Très bien, et je pense qu'on est en train de glisser vers le sujet suivant. Toi, ta démarche pour sensibiliser, que tu as peut-être pu réaliser, tu nous en diras plus par ton livre. Je te propose, avant d'en parler justement de ton livre, Une expérience libre, de nous faire une pause musicale.